Depuis des millénaires, l'espèce humaine a cohabité avec les infections et les parasites, et certains événements comme la sédentarisation, les débuts de l'agriculture ont entraîné l'apparition des premières pestes qui se sont ensuite répandues au fil de la conquête des territoires. Aujourd'hui, de nouvelles pestes apparaissent, transmises par les animaux sauvages en contact avec nos animaux domestiques. Et avec mon invité, le chercheur Serge Morand, nous allons faire un grand voyage dans le temps pour retracer l'origine des maladies infectieuses humaines depuis le berceau africain jusqu'à la globalisation d'aujourd'hui. Et aussi pour comprendre ce que ces maladies ont pu nous apporter. J'attends vos messages, toutes vos questions sur le site de la Tête au Carré, sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À l'une de la science aujourd'hui, c'est un vide extragalactique qui nous intéresse.
Oui, une région de l'espace quasiment vide de galaxies qui nous pousse à plusieurs millions de kilomètres par heure. Oui, dans l'espace, les vides, ça pousse. Daniel Pomaret, cosmologiste, nous explique tout dans un instant.
Puis comme tous les mardis, nous retrouverons la chronique de science improbable de Pierre Barthélémy, consacrée cette semaine aux zombies. Voilà donc pour le sommaire de cette Tête au Carré, réalisée par Stéphanie Texier et préparée par Pierre de Certaines.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Et ce sont donc les pestes qui seront au cœur de notre dossier dans un instant. Bonjour Serge Morand.
Bonjour.
Pourquoi les rats vous passionnent autant, et en particulier ceux d'Asie du Sud-Est ?
C'est un peu par hasard, c'est-à-dire que je suis arrivé en Asie du Sud-Est pour travailler sur les relations biodiversité et santé, et finalement c'est les rongeurs que j'ai pris comme modèle, essentiellement parce qu'ils cohabitent avec les humains dans ces pays. Depuis des millénaires, et que c'est là pratiquement que tous ces rongeurs, d'ailleurs nos rongeurs qu'on a chez nous, dans nos maisons et
dans notre environnement,
proviennent d'Asie, oui.
Ouais, donc nous allons voir avec vous quel est le rôle de ces rongeurs, mais pas seulement, puisqu'il y a énormément d'animaux, évidemment, qui ont des rapports très directs avec ces maladies infectieuses. Et puis, bien sûr, nous allons évoquer ces pestes peut-être à venir avec les auditeurs qui nous rejoignent sur le site de l'émission franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Pendant plus de 40 ans, les cosmologistes et les astrophysiciens ont cherché à comprendre pourquoi notre galaxie filait à plus de 631 km/h par seconde dans l'espace. Ils ont donc regardé droit devant à la recherche d'amas de galaxies assez massifs pour nous attirer et expliquer notre vitesse, mais sans succès. Aujourd'hui, des chercheurs français et américains ont décidé de regarder derrière et montrent que c'est un grand vide galactique situé à plus de 500 millions d'années-lumière qui nous pousse vers l'avant. Bonjour Daniel Pomaret.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers. Vous êtes co-auteur de ces travaux. Est-ce que vous pourriez d'abord nous dire comment du vide peut nous pousser ? Ça paraît absolument contre-intuitif, cette histoire.
Oui, ça peut paraître contre-intuitif. Alors, ce que je vous propose, en fait, c'est de faire une expérience de pensée.
Allons-y.
Imaginez un univers infini, rempli de matière de manière uniforme. Donc, il y a autant de matière par unité de volume en tout point. Mmh. Et la seule chose qui est en action, c'est la gravitation. Alors, dans cet univers imaginaire, on est dans une situation d'équilibre. Tous les points s'attirent les uns les autres, il n'y a aucun mouvement à signaler.
Parce qu'il y a de la matière partout ?
Voilà, il y a de la matière partout, ouais. La matière s'attire d'un point à l'autre de l'univers. Et maintenant, si on procède plus loin, imaginez que vous creusiez une cavité dans cet univers, que vous la rendiez vide, complètement vide. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? La matière, par exemple les galaxies, qui se trouvaient en bordure de ce vide, ne vont plus ressentir la gravitation qui provenait de la matière qui se trouvait dans ce vide. Et donc, elle ne sera plus attirée, et donc le reste de l'univers va l'attirer davantage, et donc ça va résulter en fait en une répulsion. Qui a son origine dans le centre du vide.
Eh ben merci d'être venu, on a tout compris.
Ça y est. on a longtemps entendu parler du grand attracteur pour expliquer notre mouvement. Il n'était pas suffisant au final. C'est comme ça qu'on a procédé.
Oui, c'est ça. Alors ce mouvement de 630 km par seconde,
c'est 631. Soyez précis.
631 km par seconde.
On est dans une émission scientifique.
Donc c'est vertigineux en fait. Hein. Ouais, 2,2 millions de kilomètres par heure. Qui sont à expliquer.
Oui.
La première manifestation de ce mouvement, en fait, ça a été vu dans le fond diffus cosmologique, en fait, qui sont des photons émis dans une phase où l'univers était jeune, où il a refroidi suffisamment, en fait, pour libérer la lumière. Et cette lumière voyage et remplit l'univers et constitue un rayonnement isotropique.
C'est 380 000 ans après le Big Bang.
Exactement, c'est ça. Et ce qui s'est passé, c'est que si on est en mouvement, il doit exister un phénomène de décalage de la longueur d'onde, un effet Doppler, qui fait que dans la direction où on se dirige, les photons vont être décalés vers le bleu, et dans la direction opposée, décalés vers le rouge. Et ça, ça crée ce qu'on appelle un dipôle, une distribution dipolaire. Et c'est en analysant ce dipôle qu'on en a conclu qu'on était animé d'une vitesse de 630 km/s.
C'est ultra précis, enfin c'est sidérant quand même d'arriver à une telle précision pour notre galaxie. Enfin,
et c'est d'autant plus important qu'il faut savoir le contrôler pour le soustraire des cartes du fond diffus cosmologique sur lesquelles est basé les analyses cosmologiques les plus précises qui permettent de déterminer les paramètres du modèle standard de la cosmologie.
Comment ça se crée un vide dans l'univers ?
Alors, c'est justement ces cartes des fluctuations du fond diffus cosmologique qui nous renseignent là-dessus. Donc, on pense dans le modèle standard de la cosmologie qu'il y a eu des fluctuations initiales de la densité, donc des surdensités qui se sont créées, qui ont donné lieu à la naissance de superamas de galaxies, et des sous-densités qui, elles, par la suite, ont donné lieu à la création de vides tels que celui que nous observons aujourd'hui.
Ça doit pas être facile d'observer le ciel et de trouver un vide puisque, justement, il n'y a rien. Comment vous l'avez trouvé ?
Alors, nous,
le vide dans le rien, c'est pas simple. Oui.
Alors, les vides sont vus dans certaines régions du ciel où il est confortable d'observer. Par contre, ce grand vide, il se trouve dans une région qui souffre de deux difficultés. Donc, premièrement, il se trouve près de ce qu'on appelle la zone d'obscuration. La zone d'obscuration, en fait, c'est une région de l'univers qui nous est cachée par le disque de matière de notre propre galaxie, la Voie lactée. Donc, nous sommes immergés dans un disque qui est rempli d'étoiles, de poussière, et ça nous cache ce qui se trouve derrière. Et ce vide se trouve à proximité de cette région. Ouais. Et une deuxième difficulté aussi, c'est qu'on est dans la zone en fait qui fait la frontière entre ce que les télescopes de l'hémisphère nord observent et ce que les télescopes de l'hémisphère sud observent. Et donc, on a un petit peu comme ça cet endroit qui est mal observé par les télescopes, par exemple le radiotélescope de Green Bank aux États-Unis ou de Parkes en Australie.
Ouais. Mais c'est pas mieux de prendre les télescopes qui sont dans le ciel justement pour faire ce type d'observation ?
Alors pour cette thématique, on a besoin d'une mesure en radio pour faire intervenir des techniques de mesure de la distance
depuis le sol.
Et de la vitesse des galaxies. Voilà.
Ouais. Alors, on sait ce qui nous pousse, on sait à quelle vitesse on va, mais où est-ce qu'on va, nous et les galaxies qui
Ah oui,
entourent.
C'est les grandes questions existentielles finalement.
Oui,
hein. Où allons-nous
oui.
Alors, ce qu'indique notre étude, c'est qu'il y a deux acteurs principaux qui sont... Alors, c'est aussi pour reprendre votre question de tout à l'heure sur l'amas du Centaure. Donc, on a, au fil des ans, donc, après cette découverte de la vitesse de notre galaxie, on a suspecté une région vers l'amas du Centaure que les chercheurs de l'époque ont baptisé le grand attracteur, qui ne suffisait pas à expliquer totalement notre mouvement en termes d'amplitude et de direction. Les années ont passé, on a suspecté ensuite la concentration d'amas de galaxies, une concentration géante d'amas de galaxies avec plus d'une vingtaine d'amas de galaxies, qui chacun contiennent plus de 1000 galaxies, dans un endroit qu'on appelle la concentration de Chapelet. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que nous subissons deux influences. Donc, l'influence de ce vide que nous avons appelé le répulseur du dipôle, en référence au phénomène du dipôle. Et on est aussi donc sous l'influence de l'attracteur dans la région de Chapelet. Et on avance dans notre article donc que ces deux contributions expliquent notre mouvement et notre vitesse.
Donc on est à la fois attiré et repoussé, ce qui
Exactement.
Les deux à la fois les nous donnent cette vitesse.
C'est ça.
Toutes les galaxies ne vont pas à la même vitesse alors ?
Eh bien en fait, ce qu'on pourrait appeler le champ de vitesse en trois dimensions est extrêmement compliqué, on le reconstruit, c'est ce qu'on montre justement dans nos cartes, dans les cartes des courants cosmiques qu'on présente dans cet article. Et il y a toutes sortes de situations qui se présentent. Si par exemple vous êtes à proximité de l'amas de la Vierge, vous serez attiré par cet amas. Si vous êtes dans un filament qui court vers le grand attracteur, vous serez pris dans ce filament comme dans une autoroute. Et il y a la situation des vides aussi, qui se vident de plus en plus et qui créent ces mouvements qui ont pour origine le centre du vide.
Allez, ouais. Une dernière question,
oui,
Axel.
Quelle distance parcourir entre le répulseur et le répulseur, ou comment vous l'appelez ?
Alors en anglais le dipole repeller, et on voit comment les gens réagissent, mais pour l'instant on l'appelle le répulseur du dipôle. Ouais.
Alors entre ce répulseur et l'attracteur, quelle distance il y a ?
Entre nous et le répulseur, c'est typiquement 500 millions d'années-lumière. Et il y a un peu plus de la même chose à l'attracteur, donc on est typiquement sur 1 milliard d'années-lumière entre ces deux ces deux acteurs principaux de l'univers local.
Bon, et la rencontre avec Andromède, c'est prévu pour quand, a priori, cette galaxie dans laquelle nous allons entrer en collision, hein ?
Alors ça, c'est l'objet d'études sur lequel mon groupe travaille aussi. Et
c'est prévu pour quand ?
Pour l'instant, 3-4 milliards d'années.
Bon, 3-4 milliards d'années. On a un peu de distance devant nous. Donc on retient ça, 631 km par seconde, hein, la vitesse de notre galaxie. Merci beaucoup, Daniel Pomarel, pour vos explications. Merci Axel, à demain.
À demain Mathieu.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, des antibiotiques qui peuvent bénéficier à des bactéries, c'est le surprenant résultat d'une recherche effectuée par des scientifiques de l'université d'Exeter. Ces derniers ont exposé des bactéries E. coli à différents antibiotiques et ont constaté non seulement que leur résistance aux antibiotiques avait augmenté, mais surtout que leur vitesse de reproduction avait également augmenté. Pour les auteurs de l'étude, cela démontre l'importance d'utiliser très rapidement des antibiotiques adaptés lors d'un traitement clinique. Le Saccharitus coronarius, voici le nom de notre plus vieil ancêtre découvert à ce jour, d'une taille de l'ordre du millimètre, doté d'une large bouche mais sans anus. L'ancêtre d'une grande partie des êtres vivants d'aujourd'hui vivait il y a 540 millions d'années parmi les grains de sable des fonds marins avant même l'apparition des premiers poissons. Selon Nature, les scientifiques ont dû passer près de 3 tonnes de pierres de chaux au peigne fin pour retrouver ce minuscule fossile dans le centre de la Chine. Et puis de l'oxygène trouvé sur la Lune qui provient de la Terre 5 jours par mois. Lorsque notre planète s'interpose entre le Soleil et la Lune, des atomes d'oxygène de notre atmosphère s'échappent jusqu'à notre satellite. Selon les chercheurs japonais à l'origine de cette découverte publiée dans Nature Astronomy, ces atomes arrachés à la couche d'ozone de notre atmosphère peuvent effectuer ce trajet uniquement durant cette période où notre magnétosphère protège la Lune des vents solaires. Cette découverte explique enfin pourquoi des proportions typiquement terrestres d'isotopes d'oxygène ont été retrouvées dans des roches lunaires. Allez, la prochaine peste, c'est le dossier réjouissant de cette tête au carré.
Défaite surprise dans l'intrigue de la nuit, ouais c'est toi que je vis. Spoiler, espèce, on voit l'apparition aux petites heures. Pour les repris de justesse, épuisé d'excès pour les noceurs. Nuisance sonore, depuis quand on part sur un dance floor. Spoiler, peine à jouir, passe-moi pour ne rien dire. Blaser, blaser, qu'est-ce qui est pire? Renoncer ou bien consentir? Je sais que tout s'estompe quand les masques tombent. Knack, knack, en bout de piste. Cette nuit s'achève sur un twist. Spoiler!
Gâcher mon plaisir. Tika motongi si na zane kobina o. Na tiki basu si na ndako. Zela tongo etana pongo to solola.
Danse comme on joue les coups. Les briquets font parler la poudre. Danse club, tel un thermos. On fait partie des meubles à force. J'ai venu m'arracher du réel. Compter 36 chandelles. Tranquillisant dans le gobelet. Trouver des illusions au rabais. Spoiler.
Tika va saucer. Tika mon boulou. Tika va te baisser. Tika mon boulou.
Spoiler.
Tika va saucer. Tika mon boulou. Tika va saucer.
Bouyabé, bouyabé. Bouyabé, bouyabé, bouyabé. Bouyabé, bouyabé. Bouyabé, bouyabé, bouyabé. Bouyabé. We have it.
Sanzoto, chikangana bina naye, chikangana bossa na basu.
spoiler avec Balogi.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Et la prochaine peste, une histoire globale des maladies infectieuses. C'est donc un livre passionnant qui sort chez Fayard et dont vous êtes l'auteur, Serge Morand. Vous êtes chercheur au CNRS et vous travaillez au Centre d'infectiologie Christophe Mérieux. Et c'est tout là-haut, hein. Donc on profite d'une de vos venues à Paris. Vous allez repartir très vite maintenant en Asie du Sud-Est pour poursuivre vos travaux. Et les auditeurs nous rejoignent avec les messages et les questions sur franceinter.fr et les réseaux avec le mot-clé l'attaque. Alors quelles sont les études exactement que vous menez en Asie du Sud-Est parce que vous avez effectué beaucoup de missions de terrain. Comment vous travaillez alors là-bas ?
Alors, mon intérêt était de faire les liens entre biodiversité et santé. Finalement, de s'apercevoir qu'on est dans un monde qui change énormément d'un point de vue biodiversité, avec une baisse forte de biodiversité. Et puis, de tester un peu ce qui apparaissait, c'était une augmentation de plus en plus importante de maladies infectieuses.
Ces dernières décennies.
Ouais. Donc, alors, pas forcément liées aux rongeurs, comme on en a parlé, mais ouais, à d'autres, aux chauves-souris, aux carnivores, aux oiseaux, on pense à la grippe aviaire. Et donc, c'était d'aller plutôt dans un terrain d'Asie du Sud-Est. Pourquoi ? Parce que c'est un point chaud de biodiversité. Diversité biologique énorme, point chaud aussi de diversité culturelle.
Très important. Ouais.
En même temps, très lié donc avec les premières globalisations, les premières émergences des civilisations et des civilisations agraires, et puis complètement lié dans la globalisation actuelle, et ce qui fait que c'était là peut-être ce que passait pour pouvoir travailler sur ces maladies infectieuses. À partir de là, c'était le choix du modèle. Alors c'était le modèle s'est imposé un peu de lui-même, c'est-à-dire c'était travailler sur les rongeurs, parce que les rongeurs sont partout, ils sont très diversifiés, c'est un centre aussi de diversification des rongeurs. Donc ils sont dans les maisons, ils sont dans les champs, ils sont dans les forêts, donc il y a des rongeurs qui sont conservés, il y a des rongeurs qui sont des vraies pestes agricoles, donc importantes, ils sont vecteurs de tas de maladies, les gens les connaissent, donc c'était facile de travailler avec eux et avec mes collègues des instituts Pasteur, d'Oxford, d'université, ouais, tous mes collègues européens.
Aussi. Donc c'est à la fois ce hotspot asiatique, très particulier, cette région du monde là, que vous avez bien décrite, et puis ces animaux qui vous servent effectivement de modèle pour comprendre quoi, alors au fond, justement ce lien que nous avons avec ces animaux domestiques au fond maintenant, parce qu'ils vivent au milieu de nous, et les maladies qu'ils peuvent véhiculer et nous transmettre.
Oui, c'est un peu ça. C'était, en fait, pour comprendre, et c'est là en fait que ça m'a fait aussi partir sur cet ouvrage, c'est on vous voyez donc apparaître ces nouvelles maladies infectieuses, alors pas forcément qu'en Asie aussi, un peu, mais la question qui se posait avec un premier papier qui est sorti par des collègues américains en 2008, c'est que on voit ces 60 dernières années une augmentation de nouvelles maladies infectieuses, donc ça je voulais un peu le retester, mais étape où ? Étape, elles émergent essentiellement dans les pays développés, donc aux États-Unis, en Europe, au Japon, en Australie, et finalement avec dans ce papier une idée que c'est les liens avec les animaux et le lien animal sauvage, animal domestique, et essentiellement dans les pays tropicaux. Donc de là, en fait, ils ont commencé aussi à développer énormément de recherches. Donc c'était intéressant d'y aller finalement là. Et on pouvait se mettre en relation directement avec des aspects d'urbanisation, de changement d'habitat.
Oui, alors il y a plein de disciplines d'ailleurs qu'on apprend à connaître grâce à vous. Les mathématiques, par exemple, peuvent jouer un rôle, tout comme la géographie infectieuse, c'est ça ?
Oui, parce qu'en fait, ce qui est intéressant en travaillant sur les maladies infectieuses... et les maladies infectieuses humaines, à l'interface avec l'animal, finalement, on se retrouve confronté à travailler avec des médecins. Ouais. On se retrouve à travailler avec des vétérinaires. Et donc, bien ça sûr aussi, c'est intéressant. On en reparlera peut-être avec les nouveaux concepts de One Health. On se retrouve à travailler avec des gens, des anthropologues qui sont sur ces sociétés, notamment des anthropologues agraires ou des sociologues. Et on se retrouve à avoir tous les outils qu'on a besoin pour pouvoir faire de l'écologie, parce qu'on va travailler sur des réservoirs, des mathématiques et des statistiques, parce qu'on va travailler avec de l'épidémiologie, des mathématiciens, des épidémiologues, et puis de la géographie, parce que finalement mon intérêt, et notre intérêt à nombreux, c'est de remettre ça dans des paysages et dans des paysages qui changent.
Absolument. Et on voit que la carte du monde des infections change selon la latitude où on se trouve, justement. Alors, vous dites des choses absolument incroyables. Par exemple, sur le réchauffement climatique, vous dites à quel point les pestes peuvent jouer un rôle sur le réchauffement climatique, sur le changement du climat.
Alors, les pestes, ce qui est sûr, c'est que les pestes, tout ce qu'on peut appeler maladies infectieuses, je prends le mot peste, pas au sens vraiment de définition vétérinaire ou médicale, je le prends comme étant en fait une maladie infectieuse, donc portée par un virus, une bactérie, et qui a un impact fort en termes de mortalité. Donc c'est pour un peu rassurer mes collègues médecins. Mais en même temps, oui, on voit que ces pestes sont pas localisées de manière tout à fait indépendante au sein du monde, qu'il se passe quelque chose et que cette mouvance géographique, cette distribution géographique, elle est aussi en lien avec, par exemple, le changement climatique. Ça, c'est bien montré. C'est-à-dire qu'on fait varier le climat, comme ça se passe actuellement, et les pestes bougent parce qu'en fait, elles se bougent dans leur environnement l'environnement épidémiologique. Alors, je mets aussi un exemple, alors qui mériterait encore beaucoup plus d'être travaillé. C'est l'inverse, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand les pestes frappent énormément les populations humaines? Est-ce qu'il y a un impact sur l'échauffement climatique? Et il y a eu quelques études, peu jusqu'à présent, qui ont montré qu'il y a eu en fait des pestes énormes par le passé, donc la grande peste, la peste noire, qui a traversé le Moyen-Âge, donc toute l'Eurasie, c'est un tiers à la moitié de la population, entre la Chine et l'Europe, qui ont été décimées. Donc, et puis, il y a les pestes qui sont arrivées sur le Nouveau Monde avec les, pratiquement même période, ou un peu après, donc ces pestes qui sont arrivées avec la colonisation européenne. Donc, on est arrivé chez des territoires amérindiens, dans des populations qui étaient relativement nombreuses, avec des cultures importantes, des civilisations très fortes. Et finalement, c'est pas tellement les colons qui les ont tués, même s'ils en ont tué beaucoup, mais c'est les pestes qu'ils ont apportées. Donc avec ce qu'on appelle le grand échange épidémiologique, et c'est 80% de la population amérindienne qui a disparu. Et là, on imagine l'impact, c'est-à-dire on arrête de cultiver, les forêts repartent, comme en Europe, les forêts repartent, on a une reforestation, c'est bien prouvé, quoi. Et là, ça capte le carbone, et là on fait descendre le climat.
Ça. Donc vous dites, évidemment, on ne souhaite pas qu'il y ait de nouvelles pestes pour lutter contre le réchauffement climatique, mais le fait est, c'est que ça peut avoir un impact concret, comme vous venez de nous l'expliquer. Cette période de colonisation, justement, et des grandes explorations au XVe siècle en particulier, illustrée dans Christophe Colomb et la découverte du Nouveau Monde.
Mais les Espagnols n'auraient jamais pu conquérir aussi facilement le Nouveau Monde sans un passager clandestin qui peut semer la mort. Quand bien même Européens et Amérindiens n'auraient que des contacts bienveillants.
Une épidémie se déclara. Une maladie avec des pustules, de gros bubons recouvrant entièrement le corps, y compris la poitrine, le visage et la tête.
Note un missionnaire.
Les malades ne pouvaient plus marcher, ni bouger. Ils étaient étendus, inertes sur le sol. Ils ne pouvaient pas changer de position, ni s'étirer, ni se retourner, ni lever la tête. Tous tombèrent malades et la plupart moururent. Beaucoup périrent de la faim et de la soif, car personne n'était en mesure de les soigner.
Sur tout le continent, les autochtones sont victimes de maladies mortelles.
Voilà, extrait donc de Christophe Colomb, Serge Morand. Et vous dites que les épidémies les plus catastrophiques de l'histoire humaine sont associées justement aux grandes explorations.
Oui, et un peu avant, les grandes connexions, c'est quand on regarde l'histoire humaine, qui est une histoire très fortement liée, donc avec nos parasites, jusqu'à la sortie Afrique, et puis jusqu'aux premières, disons, à la néolithisation, l'apparition de l'agriculture, et surtout de la sédentarisation, on vivait en petits groupes, on avait des parasites, on avait des virus, on avait des bactéries, mais finalement, les épidémies n'étaient pas présentes.
Ouais.
Donc, c'est par contre, quand on commence à...
La promiscuité, c'est vraiment la promiscuité qui permet...
Et l'augmentation de densité. Ce que nous disent d'ailleurs les épidémiologistes et les modèles mathématiques.
Ouais.
Et puis après, c'est la connexion. Et la connexion, c'est dès que les civilisations agraires commencent à se monter, on commence à faire du commerce, on échange. Et c'est à partir de là. Et d'ailleurs, les rats aussi ont profité de ça, ils ont apporté aussi la peste. Et plein de maladies ont été connectées déjà dans l'Eurasie. Et l'Eurasie, l'Afrique. Mmh. Et puis, par contre, la colonisation américaine qui s'est faite il y a plus de 12 000 ans, qui s'est arrêtée après parce que avec le réchauffement climatique et le fait que les Amériques se sont isolées, mais ils sont arrivés avec très peu de personnes et sans maladies infectieuses.
Ouais. Ah, vous posez une bonne question, vous dites, finalement, est-ce que l'agriculture est une bonne idée?
Alors, c'est pas moi qui l'ai posée.
Parce que, elle est abordée qu'effectivement, on peut se poser la question à partir du moment où l'homme se sédentarise, ses activités changent, et là, comme par hasard, on voit émerger de nouvelles épidémies.
Hein. Ouais. Tout à fait. Donc, c'est pas moi qui l'ai posée, c'est Jared Diamond, et d'ailleurs, qui avait été reprise avant aussi par un grand historien un historien, en fait, de la santé aussi, McNeil, qui en fait se pose cette question-là, c'est-à-dire que finalement, quels sont les avantages liés à cette agriculture, puisqu'on travaille plus par rapport à si on regarde certains travaux sur l'économie des petites bandes, et on subit toutes les pestes, et puis on subit aussi avec l'agriculture les pestes qui viennent des animaux de nos animaux domestiques.
Alors justement, une question de Claude de Paris qui nous dit ceci: on voit de plus en plus de rats dans les parcs parisiens, y a-t-il un risque pour notre santé, Serge Morand?
Voilà, donc c'est vrai, voilà, tout à fait. Donc ça aussi c'était un livre où j'ai un peu travaillé, où je... Disons, j'ai voulu savoir un peu de ces nouvelles pestes. Est-ce qu'il y avait quelque chose de nouveau sous le soleil? Et finalement, il n'y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil. On continue d'augmenter, ça a toujours été ça. La chance qu'on a par rapport à avant, c'est qu'on connaît beaucoup mieux ce qu'on a à faire, aussi bien aux rongeurs qu'à ce qu'ils portent. On a des services vétérinaires, on a des services de santé, on a des services des parcs qui font un travail remarquable et qui savent finalement comment gérer, ou alors des fois c'est un peu plus difficile, gérer finalement des commensaux qui des fois sont un peu trop envahissants et puis qui peuvent porter des pathogènes. Donc
ces animaux qui vivent avec nous au fond, qui mangent comme nous et qui font que voilà, il y a ces maladies qu'ils véhiculent.
De toute façon, les rats, oui, vivent avec nous. Enfin, ces rats-là, depuis entre 12 000 et 10 000 et 8 000 ans avec nous.
Donc pas de problème de santé particulier, vous êtes plutôt rassurant?
Des problèmes de santé, il faut les surveiller. Ouais. Il faut les surveiller, il ne faut pas qu'ils prennent trop de place, mais pas d'affolement non plus.
Bon, allez, on se retrouve dans un instant. Serge Morand, vous êtes notre invité pour cet ouvrage publié chez Fayard et qui s'appelle « La prochaine peste ».
Courir à perdre haleine sous les étoiles. À peine la nuit chasse les dilemmes. Dis-moi encore que tu m'aimes. Des amours, des questions me reviennent. As-tu retrouvé les tiennes? Si l'on rejouait toutes les scènes, dis-moi encore que tu m'aimes. Le soleil effleure les persiennes, les pluies vont être diluviennes. Sens-tu le parfum que le vent ramène? Dis-moi encore que tu m'aimes. Entends-tu la mécanique quand se déroule le générique? Et si l'on rejouait que tu m'aimes. La vie reste fragile tout de même, et ce trafic qui nous emmène. Et si l'on rejouait toutes les scènes, dis-moi encore que tu m'aimes. Et si l'on modifiait le thème, dis-moi encore que tu m'aimes.
Bien qu'ils ne soient pas tous des imbéciles, Les chercheurs scientifiques ont beaucoup de mal à isoler le virus de la peste.
Je ne suis pourtant pas un imbécile.
Pourquoi est-ce si difficile? Eh bien, pour le savoir, voyons ce qui se passe à l'intérieur d'une goutte de sang d'un employé aux écritures de Marne-la-Coquette dans le 93, atteint de la peste bubonique. Sur cette image, nous voyons très nettement les globules rouges et le virus de la peste. Eh bien oui, vous avez compris. S'il est si difficile d'isoler le virus de la peste, c'est que le virus de la peste ne supporte pas la solitude.
Je ne supporte pas la solitude. Étonnant, non ?
Voilà, c'était pour vos cadeaux, Serge Morand, avec Pierre Desproges et son approche de la question qui nous intéresse aujourd'hui, donc autour de la peste. Les pestes ne supportent pas la solitude. Ben, c'est pas tout à fait faux, d'ailleurs. Hein.
C'est pas tout à fait faux.
C'est exactement ce que vous nous disiez, parce que la promiscuité est facteur d'émergence de ces maladies
exactement,
infectieuses.
Exactement, tout à fait. Il y a toujours de très bons dans Desproges.
C'est ça. La Chine qui a été une terre vraiment historique d'émergence des pestes.
Hein. Oui. Et là, ce qu'on on a aussi l'intérêt, je pense que ça a encore plus à travailler, c'est qu'on a tous les textes. C'est-à-dire qu'on a énormément de catalogues des pestes depuis les quelques centaines d'années avant notre ère, quoi, jusqu'à maintenant. Donc ça aussi, pour reconstruire l'histoire des pestes, c'est assez intéressant. Et de voir aussi d'ailleurs que la relation qui pouvait exister entre l'empereur et ses sujets était rythmée aussi par la couleur, et c'est notamment les pestes.
Ouais. Alexandre le Grand, par exemple. Hein.
Alors, là aussi...
Il y a les victimes historiques de la peste, enfin des grandes maladies, en tout cas.
Tout à fait, s'il l'a attrapé. On ne sait pas toujours encore exactement ce qu'il a attrapé. Alors, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que dès qu'on trouve un nouveau... Alors ça aussi, c'est intéressant, c'est que dès qu'on trouve un nouveau virus, un nouveau pathogène, je pense à la fièvre du West Nile, je pense aussi à Ebola, automatiquement, on va aller rechercher... De quoi est mort Alexandre le Grand? Il y a toujours un papier qui apparaît dans Emerging Infectious Disease, qui va en fait soit la peste de Thèbes, qu'on ne sait toujours pas évidemment qui est le responsable, ou soit Alexandre le Grand. Donc il y avait Alexandre le Grand, on avait eu comme quoi il était mort de West Nile. Quoi.
Ouais. Et les grandes guerres napoléoniennes également, victimes de ces épidémies.
Exactement. C'est ça aussi, c'est quelque chose. Alors, il y a un ouvrage qui est considérable, qui m'a servi un petit peu, j'ai pas exploré, mais qui s'est intéressé à comptabiliser tous les morts dans les guerres, mais qui sont dus en fait aux problèmes de santé.
Oui.
Donc l'armée napoléonienne, 500 000 personnes, ils arrivent même pas 50 000 à Moscou. Mais en fait, c'est pas les Russes, c'est pas l'armée russe, c'est pas le grand hiver qui les a freinés, c'est les pestes et notamment le typhus.
Ouais. Et la grippe espagnole alors, parce qu'elle arrive en 1918, donc à la fin du conflit, 1918-1920, qualifiée d'ailleurs par certains comme le plus grand holocauste médical de l'histoire. Est-ce qu'on peut imaginer que des soldats déjà de la guerre 14-18 soient morts de
oui. Oui, sur la fin, tout à fait, bien sûr, parce qu'on a vu en fait apparaître déjà des cas, et donc c'est plutôt le retour après des soldats et le retour en fait, la reprise des échanges qui a fait finalement se disperser très rapidement le virus, avec aussi une très mauvaise compréhension du mode de transmission. Quoi. Donc on mettait tous les gens ensemble, donc c'était le meilleur moyen. Mauvaise protection aussi du personnel hospitalier qui a énormément... Ouais. Pâtit de la peste, de ce virus.
La grippe espagnole, donc, en l'occurrence. Corinne nous dit, est-ce que la peste noire se soignerait facilement aujourd'hui?
Oui.
Alors, il faut la resituer d'abord dans l'histoire. Hein. C'est 1347 jusqu'à 1353, c'est très précis, et qui a frappé l'Europe et la Méditerranée avec, vous le disiez tout à l'heure, un tiers de la population décimée. Hein. Oui.
Donc, on sait parfaitement, donc c'est pas un virus, comme disaient des proches, c'est une bactérie, qui est portée, en fait, véhiculée par des puces et des rongeurs réservoirs. Donc, ces rongeurs sont des rongeurs d'Asie centrale, et qui, alors il y a plusieurs types de rongeurs, et c'est finalement la modification de l'environnement de ces rongeurs qui fait qu'ils sont mis en contact avec des rongeurs proches des humains, et ces puces en fait aussi, et qui en fait vont commencer à émerger sur des humains. Alors maintenant, non, on guérit parfaitement, parce que en fait il faut utiliser des antibiotiques.
Ouais.
Alors après, il peut y avoir d'autres problèmes avec une émergence de résistance aux antibiotiques, mais ça se guérit très très bien, et on a toujours des cas. Hein. La peste est endémique à Madagascar, la peste est endémique dans certains endroits d'Asie du Sud-Est toujours, donc il faut faire vraiment une belle surveillance des animaux. Ouais. Et puis même, elle est arrivée aux États-Unis, elle est endémique dans la faune sauvage aux États-Unis.
Ouais. Alors, et les symptômes sont les mêmes qu'au Moyen-Âge ou pas?
Alors il y a plusieurs types de symptômes, parce que ça aussi on reprend, alors je ne suis pas médecin, hein, reprend un peu les symptômes, on peut penser que des types de peste comme ils étaient au Moyen-Âge, qui arrivaient donc avec certainement aussi une très forte létalité, donc qui a peut-être dû avoir une sélection forte pour avoir une très forte virulence, les symptômes seraient moins le cas maintenant.
Ouais. Marianne nous dit, est-ce qu'il y a eu lieu de s'inquiéter aujourd'hui de la prolifération des ragondins porteurs de leptospirose?
Alors la leptospirose, qui est aussi une autre bactérie, qui est plutôt une bactérie environnementale, et oui, elle est portée en fait par de nombreux animaux. Mmh. Et là, on a montré plutôt une relation à l'échelle globale sur des îles qui montrait que une relation négative entre la richesse en espèces de mammifères sur une île et la prévalence, l'incidence de lepto. C'est-à-dire de moins en moins on a de mammifères, d'espèces de mammifères, plus on a d'incidence potentielle de leptospirose humaine.
Alors, c'est-à-dire quoi? Que la diversité animale est très importante et
voilà, protectrice. Et là, visiblement, elle protège. Ouais. C'est-à-dire que finalement, elle permet de diluer, ou en fait de ne pas favoriser tant que ça, les incidences. Mmh. Donc c'est ça aussi qui m'intéressait dans ce lien biodiversité-santé. Donc oui, il faut faire attention à la leptospirose, qui n'est pas une maladie anodine, loin de là, ce qu'on appelait la maladie des égoutiers, hein, parce que on les a détectés, parce que les gens qui travaillent dans les égouts, en contact avec l'urine des rats, donc la bactérie étant dans l'urine, excrétée, pouvait se trouver une infection. Donc il faut faire attention à la prolifération. C'est-à-dire qu'il faut vivre avec les animaux, mais pas laisser ceux qui nous aiment trop envahir tout le reste.
Ouais. On parlera de nos relations avec les animaux domestiques, comme les chiens justement, hein, qui sont très proches de nous, parce qu'il y a aussi des études intéressantes sur cette relation et sur ce partage aussi, hein, que nous avons justement des maladies infectieuses. Serge Morand, est-ce que vous avez vu Contagion au cinéma, ce film sorti en 2011
Oui, tout à fait, parfait.
Bon, extrait pour vous.
Nous obtenons les mêmes résultats que Sussman. Nous avons séquencé le virus et déterminé son origine, et nous avons modélisé la manière dont il entre dans les cellules du cerveau et des poumons. Il contient des séquences qui appartiennent en partie à la chauve-souris, en partie au porc en bas à droite. Le vert foncé, le porc, le vert clair, la chauve-souris. Et là, tu vois l'instant de l'entrecroisement. Porc, chauve-souris et porc, chauve-souris. Et voici un modèle de notre virus et comment il s'attache à son hôte. Le bleu, c'est le virus. Le doré est l'humain. Le rouge est la protéine virale d'attachement. Et le vert est son récepteur dans les cellules humaines. On trouve ces récepteurs à la fois dans les cellules du tractus respiratoire et du système nerveux central. Et le virus s'attache à la cellule à la façon d'une clé qui pénètre dans une serrure. Quelque part dans le monde, le mauvais porc a croisé la mauvaise chauve-souris.
T'as déjà vu un virus comme celui-là?
Non. Et il change sans arrêt. Il déchiffre nos cellules plus vite que nous ne pouvons le déchiffrer.
Il n'a rien d'autre à faire de toute la journée.
Serge Morand, Contagion.
Ah non, c'est un très très bon film.
Scientifiquement solide,
hein. Oui, assez solide, hein, parce que assez solide. Solide, déjà, il y avait une passage très intéressant quand il explique l'épidémiologie mathématique avec le taux de transmission. J'avais trouvé ça vraiment très clair, très très fait. Là aussi, en fait, il y a quelque chose d'intéressant, parce que dans ce passage-là, ils disent deux choses. Ils disent en fait que pour passer d'un virus qui finalement serait ici des chauves-souris, et pour aller jusqu'à l'humain, on passe par le porc. Donc c'est-à-dire on passe par un animal domestique qui est très proche de nous. Hélas, on retrouve la même chose avec les virus influenza, mais on trouve aussi tous ces virus de chauve-souris qui, finalement, pour certains, ne nous infectent pas directement, mais passent par l'animal domestique, le porc, le cheval, le chameau, et récemment, et qui peuvent en fait refaire des nouvelles mutations et être plus virulents, ou en tout cas plus infectieux. Et puis l'autre côté qui est important, ce qu'ils nous disent, c'est aussi des virus qui sont transmis par voie respiratoire. Et ça aussi, c'est important parce que ça favorise la promiscuité. C'est-à-dire, on est en contact les uns avec les autres, ben on respire les mêmes postillons et on s'échange rapidement des virus. C'est le cas des grippes, des grippes saisonnières, quoi.
Oui, comme en ce moment. Hein,
comme en ce moment, tout à fait.
En plein dedans. Exactement. Serge Morand, vous restez avec nous pour suite de notre discussion dans un instant autour de la prochaine peste et cette histoire globale et passionnante des maladies infectieuses.
Honey, my planets or yours. Sex or
Last Shadow Puppets avec Aviation à l'instant sur France Inter dans ce dossier consacré aux pestes.
La famille Van Hardeveld était à nouveau au complet. Mais Rose était une des seules femmes américaines de la zone du canal et jamais elle ne s'était sentie aussi loin de tout. La maison empestait la fiente de chauves-souris et était infestée de lézards et d'insectes. Puis sa Benjamine, que toute la famille appelait petite sœur, fut prise d'une terrible fièvre. Petite sœur finit par recouvrer la santé, mais Rose n'était pas passée loin de la folie. Et partout autour du canal, c'était la même histoire. Malaria, dysenterie, pneumonie. Mais rien n'était pire que la fièvre jaune. Chaque année, des vagues d'épidémies déferlaient sur l'isthme, laissant derrière elles des centaines de victimes, provoquant la panique et paralysant les chantiers.
Serge Morand, un autre épisode dramatique hein, lié à, justement aux activités humaines, la construction du canal de Panama avec les ouvriers qui ont payé un très lourd tribut. Justement.
Tout à fait, puis qui explique certainement l'échec en fait français. Hein. Les maladies ont fait reculer, il a fallu attendre qu'on comprenne un peu mieux la transmission et notamment le rôle du moustique pour que l'augmentation en fait de l'épidémiologie, l'augmentation en fait de la connaissance puisse mieux protéger les ouvriers et donc puisse finir après avec par les Américains de finaliser la construction.
Ouais, tout à fait. Les moustiques qui restent les serial killers absolus. Hein.
Il reste toujours. Je pense que c'est vraiment
le nombre de morts par an liés aux moustiques est inouï. Hein. C'est, tout à fait. Plus de 700 000 morts par an.
Tout à fait. Il y a la malaria et puis bon, il y a toujours la dengue qui est vraiment importante, qui est en augmentation, qui s'étend. Il y a chikungunya, il y a maintenant Zika. Quoi. Donc on a tout un ensemble de nouvelles choses qui sortent, qui sont souvent d'ailleurs ici d'ailleurs des primates.
Ouais. Alors cette histoire, elle commence évidemment avec l'apparition d'Homo sapiens et puis les échanges avec d'autres espèces, hein, comme Néandertal, l'homme de Denisova.
Ouais. Ça aussi, c'était quelque chose qui était intéressant quand on lit la littérature, quand on reprend un peu, surtout quand on est après en Asie du Sud-Est, voir que l'Afrique est la terre en fait de diversification des homos, donc du genre homo, donc avec pas mal d'espèces qui ont cohabité, pas mal d'espèces d'homos qui sont sorties hors d'Afrique, qui se sont installées, qui ont vécu pendant des centaines de milliers d'années, et puis finalement le dernier, qui sont restés que sur le continent eurasien, donc et qui sont pas revenus en Afrique, et puis on fait finalement une espèce, la dernière espèce, Homo sapiens, notre espèce, qui sort à nouveau. Ouais. Et qui en fait avance très rapidement sur l'Asie, puis après très rapidement sur les Amériques et l'Australie. Et il y avait quelque chose qui est remarquable, c'est que peut-être en fait que ce passage si rapide, cette avancée si rapide, s'est fait parce qu'elle a pu s'hybrider avec les espèces proches de lui, c'est-à-dire Néandertal et Denisovien. Ouais. Et là, en séquençant en fait tous les génomes, on s'est aperçu qu'on partageait effectivement un nombre important de gènes. Et qu'est-ce que c'était ces gènes? Qu'est-ce que sont ces gènes? Des gènes de l'immunité. Ouais. Donc l'idée, ce serait qu'en fait, ça a permis, en s'hybridant...
D'avoir une diversité génétique.
Voilà, et de pouvoir en fait surtout d'avoir la diversité génétique adaptée aux nouvelles zones épidémiologiques que l'Homo sapiens était en train de conquérir. Ouais. Et donc de pouvoir en fait passer plus rapidement le cap de l'adaptation.
Ouais. Le rôle du système immunitaire d'ailleurs, c'est ça en tout cas, c'est d'apprendre les choses pour mieux s'adapter ensuite.
Alors le système immunitaire, en fait, il n'a pas été fait pour contrer les maladies infectieuses, c'est d'abord le soi, et ça, c'est aussi intéressant. C'est-à-dire que le système immunitaire est capable de reconnaître le non-soi, parce que d'abord, il reconnaît le soi. Et donc, ça, c'est une particularité importante. Mmh. Et puis, on a un système immunitaire qui est fantastique, parce qu'il est aussi adaptatif, c'est-à-dire qu'il est capable de pouvoir reconnaître du non-soi, qui en fait peut changer, qui peut évoluer.
Vous dites il a besoin d'être éduqué.
En plus, finalement, c'est voilà, ça. Il a besoin d'être éduqué.
Ouais. Vous prenez l'exemple du dégoût d'ailleurs. C'est intéressant ça parce que vous parlez du rat d'ailleurs, qui est consommé sur les marchés asiatiques que vous fréquentez de très près. Alors le rat que certains adorent et puis certains qui peuvent éprouver vraiment un dégoût. Ça c'est un exemple justement de valeur adaptative contre les infections, cette réaction de dégoût.
En fait c'est partagé partout. C'est-à-dire que si on est en table et qu'on voit quelqu'un qui commence à avoir des vomissements pendant le repas, généralement on s'arrête de manger. On regarde ce qui s'y passe, qu'est-ce qu'il a mangé, et ça c'est partagé partout. Et il y a aussi un dégoût, on sait reconnaître, on a une tendance à reconnaître les aliments qui en fait peuvent présenter du danger.
Les rats d'ailleurs aussi, puisqu'on parle d'eux, mais comme beaucoup d'aliments en tout cas, sont très prudents sur les aliments qu'ils découvrent.
Tout à fait, tout à fait, très très prudents.
Ils vont pas s'embarquer n'importe comment.
Non, voilà. Donc c'est ça aussi un peu le côté entre ceux qui prennent du risque, c'est-à-dire qui ont peut-être gagné beaucoup, mais qui en même temps risquent l'infection, et puis ceux qui sont beaucoup plus prudents, mais qui ne vont pas forcément découvrir de grandes choses.
Alors, Serge Morand, la prochaine peste, c'est prévu pour quand exactement?
Alors, ça, on ne peut pas prévoir, mais c'est sûr qu'elle aura lieu.
Vous qui êtes un observateur, justement, de ces maladies infectieuses, vraiment dans l'endroit du monde, en tout cas, où cette biodiversité est aussi, aussi importante, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que d'abord, il y a de nouveaux virus qui apparaissent régulièrement? Et est-ce qu'on peut craindre aujourd'hui, justement, avec cette promiscuité extrême, qu'apparaisse un jour une très grosse épidémie?
Alors oui, il y a des virus qui apparaissent, on en a trouvé d'ailleurs, qui sont sortis justement des deux rongeurs proches des humains, pas des rongeurs de la forêt. Donc oui, ça continue d'émerger. Non, il n'y aura pas de prochaine peste si on maintient nos services, nos systèmes de soins. C'est-à-dire que si on maintient notre système de soins, notre système de coopération internationale, notre système de soins surtout à l'interface entre la santé animale, et notamment pour les animaux domestiques, et la santé humaine, on est capable de pouvoir finalement contrôler très rapidement et de maintenir toute forme d'épidémie, de contenir toute forme d'épidémie. Par contre, si on déstructure nos systèmes de soins, c'est-à-dire que sont des structures, notre sécurité sociale, par exemple, là, c'est évidemment qu'on prend de gros risques en termes de contagion.
Donc les actes politiques sont essentiels, justement, dans la survenue ou non de maladies graves.
Ils ont toujours été essentiels et continuent d'être essentiels. Parce que je ne me fais pas de bide, enfin, je ne me fais pas du tout de bide d'un point de vue coopération internationale, notamment des scientifiques. Quand on regarde, par exemple, maintenant, la capacité dont nous avons là, de pouvoir échanger de l'information, de communiquer rapidement,
même si c'est de la compétition. Et puis d'aller à la source aussi des virus.
Voilà, tout à fait.
Que maintenant, on est capable de trouver l'endroit au mètre près où a émergé justement un nouveau virus.
Tout à fait. On a aussi des grandes organisations internationales qui travaillent ensemble, comme l'OMS, l'Organisation de la Santé Animale, en lien aussi avec les grandes organisations sur la protection de l'environnement, la Convention sur la diversité biologique, sur l'alimentation animale, la FAO. Donc, il y a une conscience de tous les acteurs. Le tout, c'est de maintenir, en fait, nos systèmes de soins. Et de surveillance.
Donc le message est important, évidemment. En tout cas, ces maladies infectieuses, localisées principalement dans les pays tropicaux, en lien avec les animaux sauvages, ça reste une règle quasi absolue
ou... Non, parce qu'on peut avoir d'autres choses. On peut avoir, par exemple, avec l'animal domestique. Alors, pas pour qu'humain, on en a vu apparaître aussi en Europe. Donc, on peut avoir des choses qui émergent, Mais avec l'animal, oui, c'est principalement le sud, parce que c'est très riche en diversité biologique. Donc, c'est d'un point de vue écologique, c'est plutôt normal. Il y a une très bonne relation entre... D'ailleurs, on le voit, on a une très bonne relation entre le nombre de mammifères et d'oiseaux et le nombre de pathogènes ou de maladies infectieuses qui circulent dans un pays, y compris en Europe.
Quand on regarde l'histoire, justement, de notre rapport aux chiens, par exemple, qui est probablement l'un des animaux les plus présents autour de nous, et depuis très longtemps, on partage, justement, aussi des maladies, des parasites en commun?
Énormément. Alors ça, je m'étais intéressé, puis avec d'autres collègues, à regarder cette relation qui pouvait se faire entre le temps de domestication et le partage des maladies infectieuses avec les humains. Et c'est parfaitement corrélé, c'est-à-dire qu'on partage beaucoup plus de maladies infectieuses avec le chien qu'avec le chat, qui partage avec le chien aussi et avec nous, qu'avec la vache. Et puis on descend jusqu'à les derniers animaux qui sont le lapin, qui a été domestiqué à peine encore il y a quelques centaines d'années, et ou avec les camélidés qui ont été aussi domestiqués il n'y a pas si longtemps que ça. Donc en fait, ils vont continuer à nous donner des choses.
On va encore partager beaucoup de choses. Oui, le compagnonnage n'est pas terminé. Voilà, merci beaucoup Serge Morand. Merci pour ce livre hyper passionnant. Ça s'appelle La prochaine peste, une histoire globale des maladies infectieuses avec vraiment beaucoup de disciplines qui se croisent autour de ce thème des maladies. Merci à vous et bon retour donc en Asie du Sud-Est parce que vous repartez au Laos là dans quelques jours à peine.
Merci beaucoup. Merci.
La chronique de Pierre Barthélémy en partenariat avec Le Supplément, Science et Médecine du Monde.
Bonjour Pierre.
Bonjour Mathieu.
Après les épidémies, vous nous parlez, vous, de zombies.
Et aussi d'épidémies. Mais avant de commencer, connaissez-vous le Journal of Physics Special Topics ?
Ben, j'avoue que non.
Eh bien, c'est une revue scientifique pas comme les autres. Elle est exclusivement composée d'articles rédigés par des étudiants en physique de l'université de Leicester, au Royaume-Uni. Et l'idée consiste à préparer ces futurs chercheurs au plaisir de la publication scientifique et du peer review. Ils sont vivement encouragés à faire preuve de créativité et d'humour à l'exact opposé de ce que préconisent les autres revues. Alors si je vous en parle, c'est parce que dans sa dernière livraison, qui date de novembre, 4 étudiants ont tenté de simuler une apocalypse zombie en lui appliquant un outil mathématique utilisé pour modéliser les épidémies, justement.
Et ils se sont posés quoi comme question ?
Eh bien la question suivante, que se passe-t-il si au lieu d'une banale épidémie de grippe, on a affaire à une épidémie de mort-vivant dont le vœu le plus cher Mathieu est de vous fracasser aux démons de pneus et de faire de vous un de leurs congénères. Ouais. Alors pour le déterminer, nos étudiants ont misé sur une contagiosité importante. Ils ont estimé que les zombies dont le cerveau s'apparente à une vieille éponge moisie oublient de manger et de boire et qu'ils meurent pour de bon au bout de 20 jours. Ils ont décidé que tout partait d'une seule personne infectée, le zombie zéro, qu'on va appeler au hasard Donald, et ils ont fait tourner le modèle. Alors, il faut quelques jours pour que l'épidémie prenne son envol, mais une fois que Donald a suscité beaucoup de vocations de brutes décérébrées, tout s'enchaîne très vite. La transformation des humains en zombies s'effectue sur un rythme effréné. Et les auteurs de l'étude arrivent à la conclusion qu'au bout de 100 jours, 100 jours seulement, l'humanité réduite à moins de 300 personnes est à placer d'urgence sur la liste rouge des espèces menacées.
Et c'est réaliste comme modélisation ou pas ?
Alors effectivement, c'est un peu simpliste et nos chercheurs en herbe s'en sont aperçus. Ils n'avaient pas pris en considération la difficulté des morts-vivants à trouver de nouvelles proies à mesure que celle-ci se raréfie, ni notre capacité à faire sauter la tête d'un zombie à l'aide d'un fusil à pompe. Ils ont donc écrit un second article où ils ont accordé aux humains un droit de légitime défense et aux zombies une durée de vie d'1 an, histoire de corser le jeu. Mais dans ce cas de figure, où la partie est plus équilibrée, il faut 3 ans à la population zombie pour disparaître.
Ah oui,
quand même. L'humanité, quant à elle, ne passe pas loin de l'extinction, mais finit par repartir. Selon les calculs, on peut raisonnablement penser qu'elle atteindra le niveau de 500 millions d'individus, soit 15 fois moins qu'aujourd'hui, 30 ans après l'apparition de Donald. Voilà. Toute ressemblance avec des faits existants ou allant exister n'est qu'une pure coïncidence.
Méfiez-vous quand même du zombie Donald. On retrouve cette chronique dans le supplément Science et Médecine du Monde qui sort aujourd'hui. Quoi d'autre au menu, Pierre ?
Alors cette semaine, le grand dossier est consacré à la manière dont l'école peut aider les enfants à gérer leur peur, leur stress, leur colère. Bref, à se transformer en école de la vie.
Et puis Pierre, il y a la collection du Monde Voyage dans le Cosmos.
Et oui, voilà, ça continue.
L'infini, l'infiniment petit et l'infiniment grand. Cette semaine, c'est le vide et le néant. Si le Big Bang a été le commencement de tout, comment parler de ce qu'il y a eu avant ? Eh bien, c'est une interrogation qui nous confronte à des questions généralement associées à la philosophie, telles que comment rien peut-il se transformer en quelque chose ? Eh bien, on peut désormais proposer une réponse scientifique à ces énigmes. Et c'est ce que vous allez découvrir dans l'ouvrage donc Le vide et le néant, à retrouver dès demain mercredi en kiosque. Collection Voyage dans le cosmos, proposée par Le Monde en partenariat avec France Inter. Merci Pierre.
Merci.
À mardi. Bonjour Fabrice.
Bonjour.
Affaire sensible avec vous dans un instant. Quel sera le sujet ?
Beaubourg ou Centre Pompidou fête son 40e anniversaire. Nous allons raconter la genèse du projet rempli de polémiques entre les modernes et les conservateurs. Le premier des modernes étant Georges Pompidou lui-même, figurez-vous. Et notre invité, ce sera Sibi Vincendon, journaliste à Libération, notre partenaire une fois tous les 15 jours. Et une fois tous les 15 jours, c'est aujourd'hui.
À tout à l'heure, merci.